Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve le général Forget.
Canal Academy a le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Christian Malis, lauréat du prix Edmond Fréville Pierre Messmer, pour avoir réalisé un ouvrage original, passionnant, je dois dire, et riche en réflexions sur l'art militaire, un ouvrage qui est intitulé « Guerre et manœuvre », sous-titre « Héritage et renouveau », livre paru aux éditions économiques. Alors, M. Christian Malis, vous êtes normalien, vous êtes docteur en histoire, vous êtes professeur associé au centre de recherche des écoles Saint-Cyr-Couët-Quidan, ainsi qu'à l'Institut de stratégie comparée. Vous avez déjà publié en 2005 un excellent livre, que j'ai eu l'occasion de lire d'ailleurs, sur Raymond Aron, intitulé « Raymond Aron et le débat stratégique français ». Et puis l'an dernier, vous avez consacré tout un ouvrage à la biographie du général de brigade aérienne Pierre-Marie Gallois, notre éminent stratège, hélas, récemment disparu. Alors, votre livre est original. Il est original parce qu'il repose sur le fait que 16 personnalités, civiles et militaires, des historiens, des officiers des trois armées, des ingénieurs, ont participé, en plus de vous-même, à son élaboration. Chacun d'entre vous a exprimé, dans un des chapitres du livre, son point de vue sur un des nombreux aspects de l'art militaire passé, présent et à venir, et ce, au niveau aussi bien stratégique, opératif que tactique. Et l'ensemble des textes, eh bien, c'était vous qui les avez regroupés et ordonnés. Alors c'est donc que vous avez abordé un sujet extrêmement large et vous auriez pu intituler votre livre « Réflexion sur l'art militaire ». Or, votre livre est intitulé « Guerre et manœuvre ». Est-ce que ce n'est pas un peu restrictif et dans quel sens ça l'est, éventuellement ?
Tout d'abord, je vous remercie de m'inviter sur votre antenne. C'est un grand plaisir pour moi. Un tout petit peu d'histoire, tout à fait à l'origine, l'idée de traiter ce thème précis, la place de la manœuvre dans l'art de la guerre, en allant jusqu'à la prospective, est venue, en tout cas en ce qui me concerne, avant qu'effectivement je n'engage la discussion, la réflexion avec des historiens, des officiers, dans le cadre d'une sorte de séminaire de recherche, je dirais de la rencontre de deux séries, très brièvement, 1940 et la révolution dans les affaires militaires. 1940, c'est le constat que, par le retour à la manœuvre sur le champ de bataille, l'Allemagne l'avait emporté, dans les conditions, circonstances que l'on sait, sur la France qui en était restée à un modèle 1918. Et la révolution dans les affaires militaires, qui était un thème à la mode sur la politique de défense des États-Unis après la première guerre du Golfe, l'idée qu'une révolution se préparait grâce à l'emploi des technologies de l'information pour bouleverser le champ de bataille, eh bien j'avais trouvé chez un général français l'interprétation des conséquences opérationnelles la plus originale chez un général français, le général Hubin, qui disait « Le ressort classique de la manœuvre est transformé, on va manœuvrer différemment sur le champ de bataille, c'est une révolution ». Et je m'étais dit, si à deux époques différentes de l'histoire, en 1940 et peut-être dans les années qui viennent, la manœuvre est une clé de l'évolution de l'art militaire, peut-être peut-on en faire une clé de lecture de l'ensemble de l'histoire militaire. Et là-dessus, on pouvait se reposer sur le fondateur de l'histoire militaire moderne, l'historien allemand Hans Delbrück, qui explique, après avoir étudié l'histoire militaire depuis les Perses jusqu'à Napoléon, eh bien, la manœuvre, et en particulier la souplesse des unités tactiques, est un des secrets du succès sur le champ de bataille et du progrès de l'art militaire. Et par conséquent, à ce moment-là, nous est venue l'idée qu'on pouvait contribuer de façon originale à la réflexion sur l'art militaire naissant, en apportant une réflexion française, à un moment, au début des années 2000, où il me semblait encore que cette réflexion devait gagner en puissance, eh bien, l'idée est venue, et c'est pourquoi ça peut paraître restrictif, à condition de bien préciser, comme je l'ai fait, que l'idée était d'avoir une clé de lecture de l'histoire militaire.
Je vous remercie de cette explication, je ne doutais pas d'ailleurs de votre conviction. J'avais passé à une autre question. Le premier chapitre du livre traite du concept de la manœuvre, qui est défini par le colonel Yakovlev, qui a fait un excellent article d'ailleurs. Cette définition, c'est la combinaison du feu et du mouvement. Est-ce que vous approuvez, je pense, cette définition ? Parce que la combinaison du feu et du mouvement, qu'est-ce que ça donne dans la dissuasion nucléaire ? Il y a une manœuvre de dissuasion.
Il y a une manœuvre qui est sans doute un petit peu différente.
Très différente, oui, sans doute.
Bien sûr.
Mais il y a manœuvre.
Je répondrai la chose suivante. Tout d'abord, c'est amusant parce que l'autre jour, il se trouve que j'étais amené à rencontrer le général Georges Lain, qui était encore il y a peu de temps, chef d'état-major des armées, et qui, en discutant de cet ouvrage, immédiatement réagit en disant « oui, la manœuvre, combinaison de la puissance et du feu ». C'est ce qu'on apprenait il n'y a pas si longtemps, peut-être encore toujours dans les écoles militaires, dans les cours de formation tactique. Je dirais que c'est une définition qui n'est pas fausse, elle est sans doute un petit peu statique et il faut l'élargir, comme vous l'avez suggéré. Personnellement, et je crois que c'est une réflexion à laquelle Michel Iakovlev arrive lui-même, on peut davantage définir la manœuvre comme la combinaison de moyens permettant de placer l'adversaire dans une situation de rupture ou de déséquilibre potentiel qu'on peut solder éventuellement par la bataille décisive pour un gain indiscuté ou bien dont on peut escompter un usage dissuasif, c'est-à-dire l'adversaire se sachant dans une posture défavorable n'entreprendra rien. Et en ce qui concerne le nucléaire, je dirais qu'on est deux choses. D'une part, on est plutôt dans ce second cas de figure, et je dirais par définition. On se place dans une posture telle, en l'occurrence une capacité de représailles invulnérable, que l'on se dit que l'adversaire, sachant les dommages qu'il encourrait à une quelconque action offensive, ne l'entreprendra pas. Deuxième point, il y a un changement historique dans le concept, disons, tactique de la manœuvre, qui repose quand même, malgré tout, aussi beaucoup sur la combinaison du mouvement et du feu, c'est qu'il n'est plus nécessaire de procéder à un regroupement de ces moyens de feu sous forme d'une concentration pour les rendre plus efficaces, la concentration étant un des principes au moins tactiques les plus anciens de l'art militaire. Tâcher de concentrer ses forces à un endroit inattendu et être en position de force là où on veut frapper. Je dirais que c'est très classique. Ce qui est le plus frappant avec le nucléaire, c'est que, comme le dit le général Gallois, d'ailleurs dans son avant-propos, l'arme elle-même, par sa puissance, est déjà une forme de concentration. De sorte qu'il y a avec le nucléaire déjà peut-être une révolution historique dans l'art militaire et notamment dans la conception de la manœuvre à travers la mise en cause du principe de concentration.
Pour être puriste, finalement, on pourrait dire que la manœuvre, c'est la combinaison du feu ou de la menace du feu et du mouvement.
Oui, et...
Pourquoi pas? Ça alourdit un peu la définition, parce que la définition, là, est très, je la trouve très bonne, si vous voulez, mais pour aller un peu plus loin...
Allons plus loin, effectivement, comme vous m'y invitez. D'abord, je souscris en précisant une fois de plus que l'objectif ultime, c'est quand même de mettre de l'intelligence dans le rapport de force, pour ne pas le laisser à son état brut, parce qu'on pense que ça ne suffira pas. Mettre de l'intelligence, c'est donc une combinaison telle que les forces qu'on a vont être supérieures à celles de l'adversaire à un moment donné, et donc parce que l'adversaire sera dans une situation défavorable, comme je l'ai dit, de rupture. Alors, il se trouve, et c'est un des apports de la réflexion que nous avons conduite dans ce livre, qu'on a élargi évidemment considérablement au fil des discussions, et on le voit dans l'ouvrage, la notion tactique de la manœuvre, elle s'élargit au niveau stratégique. Aujourd'hui, on parle souvent de manœuvre globale, et il est un fait qu'il y a la manœuvre des feux, du mouvement et des feux, s'est enrichie d'autres formes de manœuvre qui lui donnent une plus grande richesse stratégique. Par exemple, aujourd'hui, on procède à une manœuvre d'armement. C'est une notion qui est née au fond au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Un de ses premiers théoriciens est un Français, c'est le général Charles Airey. Il appelait ça, lui, à l'époque, la manœuvre des études et des recherches. L'idée est qu'on engage un travail de recherche scientifique et industrielle militaire de manière à se doter d'armements qui, en cas de conflit, surclasseraient ceux de l'adversaire. C'est une manœuvre en ce sens que soit on est dissuasif, dans un sens conventionnel, soit on espère être, étant donné le temps, les cycles nécessaires aujourd'hui pour développer des armes de technologie évoluée, on espère être dans une situation favorable le moment venu. Aujourd'hui, par exemple, il est clair que la supériorité américaine est le fruit d'une manœuvre d'armement très longue.
C'est pas ce qu'on appelle la manœuvre génétique.
Alors, dans les années 50 et 60, cette notion a eu des appellations diverses. Je pense que le premier à lui avoir donné le nom sous lequel on la connaît également, qui est stratégie des moyens, a été le Pierre Gallois, mais cette notion a été reprise par le général Poirier. Mais vous avez raison, cette idée de manœuvre génétique s'est imposée dans les années 60 en France.
Absolument, oui. Ça me rappelle mes souvenirs de l'école de guerre, voyez-vous. Alors je reviens au chapitre qui est traité par le colonel Iakovlev, qui est un excellent chapitre. Il est important, notamment dans la partie où il consacre son développement au concept occidental de la manœuvre. Et il analyse d'un côté ce qui est considéré aujourd'hui comme une révolution, l'information, la dilution des forces, les guerres asymétriques. Et de l'autre côté, il analyse aussi, il présente les invariants, la surprise, la continuité des cycles décisionnels, l'obligation de la rationalité de la décision politique. Alors, en ce qui concerne les révolutions, le colonel Yakovlev s'efforce à juste titre de ramener les choses quand même à leur juste proportion. Il parle même de fausse révolution. De fausse révolution, ce qui est vrai pour, par exemple, les guerres asymétriques ou contre-insurrectionnelles, où la tendance aujourd'hui a souvent été de découvrir la Lune, alors que nos armées et notre pays ont eu une vaste expérience de ce genre de guerre. Vous êtes d'accord là-dessus? Finalement, sur le fond, sur les principes, on ne découvre rien, on le connaît bien. Mais s'agissant de l'information, et c'est là où est ma question, est-ce qu'il ne vous semble pas difficile quand même de ne pas parler de véritable révolution? Parce que celle-ci porte non seulement sur les conditions de recueil de l'information, qui est meilleure, c'est vrai, sur les verts, c'est-à-dire sur les positions amies que sur les positions ennemies, mais elle repose aussi sur les conditions du traitement de cette information, et d'où un resserrement spectaculaire du cycle qui part de l'observation et va jusqu'à l'action, en passant par la prise de décision, ce qu'on appelle le cycle, les techniciens ODA. Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, tout d'abord, je souscrirais à ce que dit le Michel Yakovlev en relativisant l'efficacité de la partie recueil et de la capacité à rendre le champ de bataille transparent. C'était une formule un petit peu emblématique, en particulier dans les années 90. Comme vous venez de le dire, dans des circonstances asymétriques, ce qui frappe le plus, c'est au contraire la capacité de l'adversaire à se soustraire à nos moyens d'inquisition, qu'ils soient aériens, spatiaux ou toute autre forme de vecteurs et de capteurs. Maintenant, vous avez raison de souligner que l'accélération de la boucle OUDA est également quelque chose d'extrêmement frappant. Elle a été la source des victoires extrêmement rapides, qu'on le veuille ou non, en 91.
Ça accélère la manœuvre.
Ça a accéléré la manœuvre, ça a rendu la supériorité militaire américaine en 91 et 2003 décisive et rapidement décisive, alors que en l'absence de ces moyens de traitement, il est très probable, auquel on peut joindre l'idée de précision, ça va avec, la précision c'est quand même du traitement de l'information, mais là je vais tout à fait dans votre sens, il y a une véritable révolution, oui, effectivement.
J'en viens aux autres chapitres, on ne va pas passer en revue tous les chapitres de votre livre.
On va laisser au lecteur,
c'est dommage d'ailleurs, absolument. Mais votre livre comprend trois parties, les conceptions à l'étranger de la manœuvre, les conceptions françaises et puis les perspectives d'évolution. Alors, dans la première partie, vous avez évoqué les conceptions à l'étranger de la manœuvre. Vous avez évoqué la manœuvre américaine, les manœuvres américaines, allemandes, israéliennes et l'inévitable Sunzi chinois, dont les formules d'ailleurs sont tout à fait remarquables et méritent d'être retenues. Alors, les conceptions allemandes tiennent une très large place. Sont évoquées, bien sûr, Clausewitz, Moltke, Schlieffen et bien sûr les conceptions de la manœuvre au temps de la Wehrmacht, conceptions auxquelles tout un chapitre est consacré avec, je dois dire, une analyse critique fort pertinente de cette stratégie. Parce que d'habitude, on a l'impression de la porter au nu, alors qu'elle a eu quand même aussi des inconvénients. En revanche, comment se fait-il que vous n'avez rien dit sur la manœuvre soviétique? Car à partir de 1944, je dis bien 1944, dans la dernière phase, les dernières offensives, les soviétiques, sur le plan opératif, c'est-à-dire sur le plan du théâtre d'opération, ils ont tout de même innové. Ce n'était pas simplement le simple rouleau compresseur. Il y avait une manœuvre extrêmement pointue et qui était d'ailleurs supérieure à celle de leur adversaire. Leur adversaire qu'ils se sont efforcés de copier. Ils ont mis beaucoup de temps, mais ils ont fini même par le dépasser.
Je veux dire que vous venez pratiquement de tout dire.
C'est embêtant quand on interroge quelqu'un.
Pour aller dans votre sens, ça a été parfaitement démontré. Cette supériorité et cette qualité de l'art opératif soviétique a fait l'objet d'un ouvrage de Jacques Sapir, qui est un des grands spécialistes de l'art militaire soviétique, qui a montré, en particulier sur le théâtre de Mandchourie, à quelle maîtrise des opérations dans la profondeur, de la combinaison sur l'ensemble d'un théâtre d'opération des différents moyens, des différentes armées, les soviétiques avaient pu arriver à la suite de l'expérience de la guerre. Il se trouve qu'il y a, à ma connaissance, trois spécialistes de grande importance, le colonel Glantz aux États-Unis, un historien Laurent Henninger sur l'art soviétique, et puis ce fameux Jacques Sapir. Malheureusement, il se trouve qu'aucun n'était réellement disponible pour le chapitre que j'escomptais fortement sur ce sujet, d'autant plus que l'art militaire soviétique, dans cette dimension de réflexion et de pratique de la manœuvre à un niveau opératif, a été fondateur. L'expérience de la guerre civile leur avait appris justement la manœuvre sur des théâtres extrêmement vastes. L'usage de la percée, alors à l'époque plutôt sous la forme de la cavalerie, mais qui ensuite a donné la percée blindée. Ils ont inspiré les Allemands. Ils ont même inspiré les Américains de la révolution dans les affaires militaires. Mais il se trouve que les purges de Staline ont entraîné une régression doctrinale en Union soviétique. Il leur a fallu la guerre pour réapprendre et pour redevenir effectivement une sorte de leader dans la pratique de la manœuvre opérative, comme vous venez de le souligner.
Donc je me réjouis de vous avoir posé la question, puisque vous-même vous la posez.
C'est effectivement un manque, absolument.
Mais par manque d'auteurs.
Voilà, d'auteurs réellement disponibles, pas d'auteurs dans l'absolu.
Je dois dire que d'ailleurs dans l'île, cette manœuvre est évoquée un petit peu, mais pas
indirectement, malheureusement.
Alors dans la deuxième partie de votre ouvrage, vous traitez de l'expérience française de la manœuvre, avec des évocations historiques, bien sûr, la manœuvre de Napoléon, on ne peut pas passer à côté. Mais il y a un aspect qui a été extrêmement intéressant, traité par le colonel Goya, c'est la façon dont notre armée française s'est motorisée et la façon dont elle a conduit la guerre en 1918, parce que c'est quelque chose d'assez peu connu, hein. La motorisation de l'armée française à partir de 1917 et 1918, a quand même complètement changé de la durée de la guerre, ce qu'on a peut-être oublié ensuite. Mais ce n'est pas là ma question, si vous voulez. Vous-même, vous avez écrit un chapitre sur la conception française de la manœuvre dans les années 1950. Période difficile, parce que c'était l'époque où on devait faire face aux contraintes à la fois d'un éventuel conflit nucléaire en Europe et aux contraintes d'une guerre contre-insurrectionnelle en Algérie. D'où le titre de ce chapitre, qui est original, « Entre la bombe et le Fellaga ». Et là, vous vous êtes référé très souvent, vous avez cité en tout cas, la doctrine du général Ayré, les doctrines, je dois dire. Dans les années 50, face à la menace soviétique en Europe, le général Ayré, nous étions dans l'OTAN à l'époque, pas l'oublier, Ayré envisageait une défense basée sur des forces peu nombreuses, largement réparties en profondeur sur le terrain, disposant du feu atomique, de telle sorte que si l'adversaire attaquait de façon concentrée, il était pulvérisé, et s'il s'engageait de façon diluée, il était à la mesure de ses forces. Et dans la guerre d'Algérie, le même général Ayré constatait que, au fond, je le cite, « les mêmes types d'unités valaient pour la guerre atomique et la guerre révolutionnaire. Pour la guerre révolutionnaire, des unités de quadrillage, légères, diluées sur le terrain, pour contrer des actions plus ou moins isolées de l'adversaire, et puis des unités alors beaucoup plus membrées, aux capacités opérationnelles sérieuses, pour s'opposer aux unités concentrées, les fameuses Katiba en Algérie, qui étaient bien sûr attaquées par les régiments de parachutistes et les unités, disons, de réserve générale. Alors, c'est important ce rapprochement, mais pensez-vous que cette affirmation, qui est une affirmation hardie, soit intéressante aujourd'hui, où il faut effectivement être prêt à tout, c'est-à-dire être engagé aussi bien dans des conflits symétriques, nucléaires ou pas, que dans des conflits asymétriques.
Alors, c'est vrai que le rapprochement avec la période actuelle est intéressant. On a des problématiques un petit peu semblables. On cherche à la fois à se préparer à des conflits de type conventionnel dur, et c'est pour ça qu'on continue à développer des plateformes extrêmement sophistiquées et capables de supériorité conventionnelle. Et on est en réalité affronté à des conflits de type contre-insurrection, pour reprendre l'expression américaine. Exactement comme dans les années 50, il fallait se préparer à une éventuelle confrontation de grande envergure centre-Europe sur un mode conventionnel éventuellement atomique, tactique, voire stratégique, tout en ayant des forces prêtes à l'emporter sur le terrain en Algérie avec des contraintes d'emploi des forces extrêmement différentes. Alors effectivement, je pense qu'Ayré a proposé une synthèse qui à l'époque déjà relevait un peu de la martingale, c'est-à-dire finalement je vais satisfaire un peu l'armée de terre qui continue à réclamer des effectifs, alors que la nouvelle doctrine de l'OTAN, vous l'avez dit vous-même, dont un des artisans français, un aviateur d'ailleurs, estimait qu'on n'avait plus besoin d'effectifs puisqu'on avait le feu nucléaire et qu'on pouvait économiser justement.
Le général Gallois,
bien qu'ils aient été extrêmement amis et complices sur toutes sortes de sujets, là on peut sentir une pointe de différence. Je pense qu'à l'époque où Ayré a écrit, il y avait quand même cette nécessité un petit peu politique d'arriver à satisfaire un petit peu des aspirations différentes. Alors est-ce qu'aujourd'hui cette synthèse est tenable ? À brûle pour point, je vais répondre non pour une raison extrêmement simple. Nous menons des conflits qui sont, pour l'adversaire qui est en face de nous, de grande envergure. Lui, il joue tout. Et nous, on appelle ça des conflits limités parce qu'on n'engage qu'une fraction de nos forces. Moyennant quoi, on aurait besoin de quadriller, on aurait besoin de ressources humaines, on aurait besoin d'avoir des centaines de milliers d'hommes sur le terrain pour espérer réduire de manière décisive le niveau de violence, par exemple en Afghanistan, comme on avait su le faire militairement en Algérie. Nous n'avons pas ces ressources parce que nous sommes quand même partis au début des années 90 dans la foulée de la guerre du Golfe sur l'hypothèse que des petites armées professionnelles de très haute technologie l'emporteraient facilement sur tout autre type d'adversaire moins bien équipé. On ne peut pas changer ce modèle militaire comme cela, je ne pense pas qu'on le fera, parce que l'expérience de ces conflits de contre-insurrection nous montre que nos ressources humaines sont insuffisantes et les opinions publiques ne sont pas prêtes non plus à consentir les moyens de le faire. Par conséquent, je pense que cette martingale, ce qui déjà à l'époque était un peu une martingale, parce qu'au fond la meilleure solution c'était de partir, en tout cas c'est ce que De Gaulle a fait, ne pourraient pas réussir davantage aujourd'hui. On voit d'ailleurs que les Américains font un effort en Afghanistan supplémentaire en termes de nombre de troupes, en espérant obtenir le même résultat qu'en Irak, réduire un peu le niveau de violence, mais dans l'idée quand même de partir la tête haute et de laisser le pays à son propre avenir.
Mais pour revenir au général Ayré, à sa théorie de guerre atomique en Europe, il ne faut pas oublier que ce qu'il a écrit là, c'était au début des années 50, quand nous étions donc dans l'OTAN, et où la doctrine de l'OTAN, c'était la riposte massive nucléaire, qui a été abandonnée très rapidement pour la doctrine de riposte graduée, ce qui fait que la doctrine Ayré n'a jamais été appliquée.
Oui, c'est vrai. Alors, il y a eu quand même un épisode peu connu, mais auquel justement Pierre Gallois a participé. C'est cette doctrine MC-48 qui a consisté à nucléariser la défense occidentale face aux troupes soviétiques en tenant compte que face aux 200 divisions dont on créditait le pacte de Varsovie, on en alignerait bon an mal an pas plus d'une trentaine. Donc il fallait un concept révolutionnaire basé sur l'emploi de l'arme atomique. Par la suite, on est passé à la riposte graduée où on est un des stades. Le premier stade était un conflit assez conventionnel avec au fond les forces dont nous disposions. Et l'idée n'était pas effectivement de résister éventuellement avec des forces extrêmement nombreuses, c'est que si nécessaire, on passerait au stade d'après, l'espoir étant que cette escalade ne se produirait pas.
Tout ça montre d'ailleurs que pendant cette période de dissuasion nucléaire, il n'y avait pas tellement d'atonie de la part des penseurs quand même, parce que ça discutait beaucoup.
Alors,
ça discutait même énormément.
C'est un point extrêmement intéressant. C'est une des choses qui m'ont le plus occupé dans mon travail d'historien. L'âge d'or et la renaissance même de la pensée militaire française après la Seconde Guerre mondiale. Autant dans les années 30, il y avait eu une sclérose, non pas de la pensée militaire qui était vigoureuse, mais de la doctrine. Autant les autorités militaires ont cherché à donner une impulsion très très forte à la réflexion militaire libre après 1945, au motif notamment que cette sclérose nous avait coûté cher. Et donc, il y a eu vraiment des initiatives du côté de l'armée de l'air et ailleurs pour favoriser une réflexion libre. Elle nous a donné une génération exceptionnelle. Ayré, Beaufre, Gallois, on peut citer des civils, Aron, Augeron, Lucien Poirier, bien entendu. On doit redécouvrir la richesse extrême de cette pensée stratégique française, très très productive dans les années 50-60, à la faveur d'un débat que l'existence de très nombreuses revues professionnelles permettait et rendait très riche. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'il y a eu un creux. Ensuite, pour diverses raisons, il y a eu un peu l'orthodoxie du nucléaire, il y a eu un peu les conséquences de la guerre d'Algérie sur une certaine liberté d'expression des militaires, et on peut quand même constater qu'il y a eu ensuite un certain fléchissement.
Une certaine atonie.
Une certaine atonie. Alors, elle n'est pas complète, parce qu'on peut citer des auteurs très brillants des années 80, vous le ferez mieux que moi. Enfin, je pense en particulier au général Le Borne, mais il y en a bien d'autres. Depuis 10-15 ans, ça change considérablement. La réflexion, en particulier militaire, la réflexion tactique, renaît réellement, y compris dans des organismes officiels, comme le Commandement pour la doctrine d'emploi des forces, qui est un organisme de l'armée de terre, je le cite simplement à titre d'exemple. Et il y a une génération de jeunes penseurs militaires, des jeunes turcs, on pourrait appeler ça comme ça, des colonels, enfin jeunes turcs, non pas qu'ils mettent nécessairement en cause la doctrine officielle, mais vraiment, ils cherchent à apporter une contribution propre à la réflexion militaire. Et c'est banal de le dire, on est dans des temps d'un peu d'incertitude stratégique, c'est vraiment le moment d'avoir une réflexion très libre, me semble-t-il.
Moi, je me réjouis de voir qu'aujourd'hui, je constate que dans des revues, qui ne sont pas des revues d'une grande diffusion, mais beaucoup d'officiers, que ce soit dans l'armée de terre, que ce soit dans la marine, que ce soit dans l'armée de l'air, s'expriment, et s'expriment d'une façon fort intéressante, compte tenu en particulier de leur expérience, et ils n'hésitent pas à s'exprimer. Il y a effectivement, de ce côté-là, beaucoup de remue-ménage, tant faut peut-être mettre de l'ordre là-dedans, mais ça foisonne, c'est une bonne chose quand même. Je voudrais poser une autre question relative à la troisième partie de votre ouvrage qui est consacrée aux perspectives innovantes pour la prochaine décennie. Les cinq chapitres qu'il y a eu dans cette partie ont le mérite d'exposer les points de vue d'officiers provenant des trois armées. Compliment, c'est des rares fois, on voit quand même les trois armées représentées dans un livre de ce niveau. Donc, ces officiers qui provenaient des trois armées, l'armée de terre, air et marine, tandis que sont évoqués toujours, d'ailleurs, les deux cas de figure envisageables, guerre symétrique et guerre asymétrique, ça passe partout. Ces analyses, finalement, elles s'accordent assez facilement sur les facteurs nouveaux qui conditionnent la manœuvre des forces. J'ai relevé le degré désormais très élevé de connaissance de la position des forces amies, on y revient, et dans une certaine mesure seulement des forces adverses, mais tout de même, on fait des progrès, surtout sur la rapidité de remontée et d'exploitation du renseignement,
oui.
D'où l'accélération du fameux cycle que je citais tout à l'heure. La précision des feux, c'est un bouleversement, non seulement dans l'aviation des missiles Hersol, mais dans l'artillerie.
Tout à fait.
Les nouvelles pièces d'artillerie, c'est fantastique. Un coup, ça va au but. C'est quand même pas mal. La permanence des actions de jour et de nuit qui bouleverse complètement les conditions du combat, l'organisation des unités. Et puis, est mentionnée, je m'en réjouis, l'importance de la lutte informatique offensive, et j'ajouterai et défensive. C'est ce qu'on peut appeler la cyberguerre. On parlait jusqu'ici de guerre électronique qui demeure, et maintenant c'est la cyberguerre qui complète et qui est vraiment un risque redoutable si on n'arrive pas à maîtriser cette affaire-là. Alors, mobilité, souplesse, réactivité des forces en sont les conséquences qui sont parfaitement évoquées dans les différents chapitres. La question que je me pose est d'un autre ordre. Je me la pose personnellement, elle n'est pas traitée dans le livre, mais on peut en discuter. Toutes ces considérations reposent sur le fait que nos armées disposent d'un équipement et d'armement haut de gamme dans nos forces. Et de tels équipements et armements, et leur environnement, notamment des transmissions, des moyens d'exploitation des données, sont redoutablement efficaces, sont chers, et donc ça fait des équipements et des armements peu nombreux. La question que je me pose, c'est quelles peuvent être les conséquences de leur taux d'attrition à prévoir dans tout engagement sérieux sur les capacités de manœuvre de nos forces, au moins dans la durée. Il y a quand même un problème.
Je suis entièrement d'accord avec vous. Ce que vous dites illustre ce qu'on appelle parfois dans le monde stratégique la fameuse loi d'Augustine, qui veut que, étant donné la
situation... Je ne connaissais pas cette loi.
Alors avez... c'est une loi... Norman Augustine, c'est un Américain qui a... À moitié, à titre de boutade, mais assez sérieusement, dans les années 90, a expliqué que quand il considérait l'évolution du coût des aéronefs de combat américains, il avait calculé qu'en 2054, l'ensemble de la défense américaine ne disposerait plus que d'un seul avion, que les différents services se prêlent très alternativement d'une semaine sur l'autre. Poussé à l'absurde, c'est ce que vous dites. On en arrive aujourd'hui, et les contraintes budgétaires obligent à réduire les cibles sur le F-22, tous les nouveaux appareils. Il faut bien reconnaître que dans les analyses de la menace qu'on fait dans certains ministères de la Défense, on considère qu'il y a un risque sérieux qu'un adversaire tâchant de saturer nos défenses et nos capacités d'action avec des moyens plus rustiques, mais en très grand nombre, pourrait représenter un vrai danger. Et je dirais, ce n'est pas qu'une perspective, c'est déjà une réalité. Un épisode militaire frappant relativement récent, c'est l'affaire de Tzahal contre le Hezbollah. Qu'a-t-on vu ? L'armée que vous décrivez, avec quand même pas mal de plateformes, en tout cas de chars par exemple, beaucoup d'avions, une supériorité technique écrasante, et un adversaire qui en face n'a pas été vaincu, et qui a saturé notamment Israël avec des armes rustiques. 10 000 roquettes contre 50 missiles de croisière, si je peux choisir cette expression. Je considère qu'on est donc, enfin certains considèrent, et je les rejoins, on est en phase de rendement décroissant de la technologie militaire. C'est un vrai problème, je n'ai pas de réponse, mais je considère qu'il y a un danger objectif.
Je ne sais pas si c'est une réponse, mais le fait de disposer à côté de peut-être d'armements et d'équipements un peu moins sophistiqués, je ne suis pas contre la sophistication, croyez-moi, bien au contraire. Je suis une formation armée de l'air, donc une armée technique est là-dedans, il n'y a aucun doute de mon côté. Mais je me pose des questions si il ne faut pas porter aussi une attention à certains armements, notamment peut-être plus simples. Et là, je me réfère à la guerre du Golfe. La guerre du Golfe, on a commencé à tirer des missiles extrêmement précis, à guidage laser, etc. Puis ça s'est terminé comment ? Par un bombardement en semi-piqué avec de bombes de 250 kilos.
Hein ? Tout à fait. Le problème, on pourrait résumer ça dans une formule qui est comment peut-on retrouver des effets de masse qui pourraient être un jour nécessaires ? Actuellement, j'ai envie de dire, on expérimente diverses formules. Sur les théâtres sur lesquels on est engagé, on essaie d'accroître le volume d'efforts, tout simplement, avec des privés, des sociétés militaires privées. C'est une solution qui vaut ce qu'elle vaut, elle a beaucoup de limites. On recourt aux robots. Ça peut être partiellement une réponse dans certains cas. Sur le théâtre irakien, par exemple, il y a des milliers de petits robots, comme vous dites, très rustiques, notamment dans le domaine terrestre, des milliers de petits drones.
De ce côté-là, on ne risque rien. On n'en a pas beaucoup.
Alors, on ne peut pas dire que la France soit particulièrement en avance. C'est quelque chose qui, personnellement, me chagrine un petit peu, parce qu'il faut reconnaître que les États-Unis, mais aussi Israël, sont des vrais laboratoires des armées futures qui seront quand même partiellement robotisées, qu'on le veuille ou non. En tout cas, c'est ce qu'il me semble. Et qu'il s'agisse des robots terrestres ou des grands drones, c'est vrai que l'armée française semble avoir des difficultés, disons, à être dans ce mouvement. Mais vous avez raison, il y a, sur des armements plus classiques, retrouver des effets de masse, en avoir bien davantage, risque d'être une nécessité. Oui.
Toujours dans ce chapitre des perspectives innovantes, bon, il est fait allusion très très souvent au problème de la dispersion du regroupement, de la dispersion du groupement. C'est vraiment pas nouveau. Ce qui se passe, c'est que ça va plus vite. On a davantage de possibilités de mobilité, mais le principe reste le même. Il faut pouvoir se concentrer rapidement, pas trop longtemps. Il faut pouvoir se disperser en fonction des... Ça a toujours été vrai, tout de même.
Alors,
Est-ce que c'est si innovant que ça sur le principe?
Je vais tâcher de parler pour, je ferai mal, mais pour le général Hubin, qui est le principal défenseur de cette thèse, bien que le colonel Durieux défende une thèse finalement relativement proche. Pour le général Hubin, c'est une perspective un peu révolutionnaire, il y a une rupture. C'est-à-dire que la capacité à se concentrer pour avoir une supériorité locale ou momentanée n'est plus une nécessité. L'objectif est d'obliger l'adversaire à se concentrer pour le rendre vulnérable à nos frappes, comme vous l'avez dit, nos frappes à distance.
À condition d'avoir un nombre suffisant de moyens extrêmement pointus pour frapper, effectivement.
C'est vrai, et en même temps, comme vous l'avez dit, comme c'est un coup au but, presque à coup sûr, enfin, dans la théorie tout au moins, on a besoin d'en avoir moins. Mais il y a des limites, hein. il y a quand même effectivement des limites. Mais disons, le schéma, hein, il est théorique, c'est aujourd'hui, si on est concentré, on est mort, à condition que l'adversaire ait lui-même des moyens de feu précis, etc., ou en tout cas suffisants pour nous frapper à peu près à coup sûr. Et donc l'objectif, c'est grâce aux moyens d'information de se disperser tout en restant groupé, enfin coordonné plus exactement, et d'obliger l'adversaire par une manœuvre d'un nouveau genre à se concentrer. Donc l'obliger, ça peut être par l'aménagement du terrain, des entonnoirs, le filtrer, enfin ça dépend de la morphologie du terrain et du contexte opérationnel. Alors c'est une théorie qui est exposée, qui m'a beaucoup séduit. On peut dire qu'on en trouve dans certains projets futuristes de l'armée française des traces, incontestablement, et je pense qu'elle mérite une grande attention.
Absolument. Écoutez, on pourrait discuter très longtemps sur ce livre, ce qui prouve la richesse de ce livre, que je souhaite qu'il soit lu, qu'il soit connu. Il a été primé avec chaleur par le jury. Ce prix Edmond Fréville, Pierre Messmer, Monsieur Pierre Messmer en particulier, avait souhaité donner plus de valeur à ce prix pour inciter précisément les gens à réfléchir, à sortir de cette atonie de la pensée militaire que vous avez citée. Monsieur Christian Malis, je vous remercie beaucoup de cet entretien passionnant qui pourrait continuer encore pendant des heures, mais le temps nous est compté. Merci encore.
Merci à vous.